Prédication pour le premier jour de l'an par Jean-Frédéric Nardin sur Luc 2, 21. Et quand les 8 jours furent accomplis pour circoncire l'enfant, alors son nom fut appelé Jésus, lequel avait été nommé par l'ange avant qu'il fût conçu au ventre. Mes bien-aimés auditeurs, voici, par la grâce de Dieu, que nous recommençons une nouvelle année. Une année de notre vie pleine de vanité et de rongement d'esprit. Les grâces de notre Dieu se renouvellent tous les jours sur nous. Il veille avec ses tendres soins à notre conservation, non seulement pendant un jour, non seulement pendant une année, mais pendant plusieurs années et pendant toute notre vie, et son soin assidu garde notre esprit. Ce charitable Dieu nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Il nous a tirés du ventre de nos mères. Il nous a, jusqu'ici, conservés paternellement et préservés de plusieurs dangers et comblés d'une infinité de biens et de grâces. De sorte que nous voici encore par sa faveur, jouissant de la vie, de la santé, de la paix et des autres biens de sa libéralité. Certes, chers auditeurs, nous devrions être émus de tendresse et d'amour envers un Dieu qui en a tant pour nous, bien que nous ne le méritions si peu, et que nous soyons plus dignes d'être visités en sa colère, que d'être favorisé des effets de son amour. Fais-y quelques réflexions, chère âme. Tourne-toi vers ce Dieu qui est si près de toi, qui te cherche en tant de manières et qui te fait du bien sans que tu y penses. Qui est-ce qui t'a donné ce beau corps et cette âme raisonnable ? Ces belles qualités de corps et d'esprit qui reluisent en toi, cette vie, cette santé, cette force, ces biens et toutes ces bonnes créatures dont tu jouis. Qui est-ce qui te donne tout cela? Ne sont-ce pas des effets de la libéralité et de la bonté de ce Dieu que tu négliges pourtant et auquel tu penses si peu? Qui est-ce qui t'a tiré de tant de dangers? Qui t'a fait éviter tant de malheurs? Qui t'a guéri de tant de maladies douloureuses? Qui t'a fourni les moyens de sortir de plusieurs affligeantes circonstances dans lesquelles tu étais engagé? N'est-ce pas ce Dieu bon qui par là veut encore te montrer combien il t'épargne et qui veut encore te donner le temps de te reconnaître? Et de le reconnaître aussi pour ton Dieu et pour ton bienfaiteur auquel tu devrais te donner et te sacrifier. Oui, voici tant d'années que tu vis dans le monde d'une vie corporelle. Mais quand commenceras-tu à vivre d'une vie spirituelle? Quand commenceras-tu à laisser vivre Jésus en toi, sans la vie sainte duquel ton autre vie est perdue? Il te vaudrait mieux n'être jamais venu au monde que d'y vivre comme tu fais, sans Jésus et sans sa vie dans toi. Depuis si longtemps que Dieu te conserve dans ce monde, as-tu commencé à vivre d'une autre vie que de cette vie animale? As-tu commencé à laisser produire en toi cette vie divine et nouvelle qui est l'unique fin pour laquelle Dieu t'a donné et te conserve encore la vie corporelle? Vois-tu, chère âme, examine cela. C'est là ton tout et ton principal. C'est là pourquoi tu es dans le monde et l'œuvre pour laquelle, commencé et parachevé, Dieu t'y a envoyé. Et pour savoir si cette vie nouvelle est en toi, examine avec moi en suivant les occasions que nous en fournit notre texte. Ce qui se passe dans une âme dans laquelle Jésus est né et vit. Comment, premièrement, elle se laisse circoncire avec son Jésus? Et deuxièmement, comment elle reçoit un nouveau nom avec lui. Nous ne saurions nier que la vie de Jésus ne doit être quelque chose de puissant dans une âme qui la reçoit, et qu'elle n'y demeure pas oisive ni sans opération. Voyons donc, pour examiner si nous avons cette vie, quelles sont les opérations qu'elle produit, et commençons par la circoncision spirituelle que notre texte nous donne matière d'examiner à l'occasion de la circoncision corporelle que Jésus reçut en sa chair 8 jours après sa naissance. Pour y procéder avec ordre, considérons-y ces 3 choses. 1. Ce que c'est que cette circoncision spirituelle. 2. Quand elle se fait. Et 3. Pourquoi elle se fait. 1. Chacun sait ce qu'était la circoncision faite de main en la chair, que ce que Dieu avait ordonné à Abraham et à sa postérité pour être un sceau de la justice par la foi, à savoir que c'était le retranchement du prépuce de la chair de tout enfant mâle le 8e jour après sa naissance. Cette circoncision ne se faisait point sans douleur et sans effusion de sang. Même les douleurs y étaient si violentes qu'elles mettaient l'homme hors d'état d'agir, comme cela se voit par l'histoire de Hémor et de Sichem, et de tous les hommes de leur ville, lesquels s'étant fait circoncire, le 3e jour après leur circoncision, furent dans de telles douleurs que Siméon et Lévi, deux fils de Jacob, entrèrent sûrement dans leur ville et les mirent tous à mort, sans qu'aucun d'entre eux pût se lever pour se défendre ou pour fuir. C'est de cette circoncision, faite de main en la chair, que Jésus fut circoncis en ce jour, dans laquelle il n'est pas nécessaire qu'une âme soit rendue conforme à Jésus, parce que cette circoncision charnelle a été abolie par lui-même. Mais c'est à la circoncision spirituelle que Jésus appelle maintenant ceux qui veulent vivre en lui. Cette circoncision spirituelle est aussi, bien que la corporelle, un retranchement, un dépouillement, mais du prépuce qui est le péché. C'est ainsi que saint Paul l'a décrit, quand il dit à ses Colossiens et à tous les fidèles, vous êtes circoncis en Jésus-Christ d'une circoncision faite sans main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, à savoir par la circoncision de Christ. Cette circoncision, donc, est premièrement un dépouillement, un retranchement du corps du péché. Ce retranchement se fait par la justification et la rémission des péchés, dans laquelle les péchés et leurs peines sont remis et pardonnés à une âme qui est et qui croit en Jésus, comme saint Paul l'insinue un peu après ces paroles que nous venons de citer quand il dit « Lorsque vous étiez morts dans le prépuce de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses. » C'est dans ce dépouillement du péché que les souillures d'une âme sont comme roulées de dessus elle, et que son prépuce, qui la rendait désagréable aux yeux de Dieu, est jeté arrière d'elle, et plongé dans la mer de la miséricorde de Dieu en Jésus, de sorte qu'il n'y a nulle condamnation en elle, étant parfaitement délivrée par Jésus de tout ce qui la souillait aux yeux de Dieu. Cette première manière d'être circoncis spirituellement avec Jésus est bien la plus glorieuse et la plus pure. Lorsque l'âme pécheresse, dépouillée des haillons sales du péché, est revêtue du Seigneur Jésus comme d'une manteline, et que tous ses péchés sont couverts et cachés sous cette manteline, de la justice parfaite de son Sauveur. Mais ce dépouillement et ce retranchement du prépuce se fait aussi par la rénovation, par le renoncement et la mortification de la chair et de ses convoitises. Lorsqu'une âme commence à être délivrée de la domination, de la captivité du péché, que sa volonté, ses affections et son amour sont arrachés à l'esclavage du péché et que ses prépuces spirituels sont jetés arrière d'elle par une détestation et une haine sincère et vive qu'elle conçoit pour tous les péchés en général, pour ce corps de péché, pour ce vieil homme et pour tout cet amas de corruption dans lequel elle était comme plongée, dans lequel elle vivait et prenait son plaisir et sa joie. Cette circoncision spirituelle en ce sens s'avance et se perfectionne tous les jours de plus en plus. Après que la grâce a donné à une âme de la haine pour le péché et un désir ardent pour la sainteté, elle travaille à retrancher, à mortifier de plus en plus la chair avec ses convoitises et à se purifier de toute souillure de chair et d'esprit pour avancer et parachever sa sanctification en la crainte de Dieu. Avant cette circoncision spirituelle, une âme est enveloppée du péché et de l'affection de la chair comme d'un vêtement. Toutes ses pensées, ses paroles et ses actions en sont souillées, empoisonnées et rendues puantes à Dieu. Tous ses désirs, son amour, ses recherches vont aux choses de la terre et à ce qui fait du plaisir à la chair. Les principes et les maximes qu'elle suit en découlent et ne tendent qu'à nourrir la corruption, qu'à lui donner des efforts et à chercher son plaisir et sa joie dans l'assouvissement de ses convoitises. Mais quand elle vient à être participante de la circoncision de Christ, elle commence à avoir en horreur cette robe tachée de la chair, à être dégoûtée de sa corruption, à ne plus prendre de plaisir dans le péché, mais à tourner ses désirs et ses recherches vers les choses éternelles et divines, à les aimer, à soupirer après leur possession et à mettre son bonheur et sa joie dans la jouissance des biens de la grâce et de la miséricorde. C'est ce qui fait qu'elle commence tout de bon à s'opposer aux désirs corrompus de son cœur et à ses convoitises, à les combattre, à les mortifier et à ne plus laisser régner le péché dans son corps mortel. Elle mortifie les membres du vieil homme qui sont sur la terre, à savoir la paillardise, la souillure, les affections déréglées et l'avarice. Elle rejette encore toutes ces choses, la colère, l'indignation, la malignité, la médisance, la parole déshonnête, le mensonge et toutes les autres actions du vieil homme. Voilà l'infâme prépuce qu'une âme qui part à la vie nouvelle jette arrière de soi et retranche. Voilà comment elle est circoncise avec Jésus son Sauveur. Comment elle s'avance dans la purification et dans la préparation à la cité céleste, où rien de souillé n'entrera, et dans laquelle les incirconcis ne passeront point. En vérité, toute âme qui ne sent point dans son cœur une véritable haine pour le péché, mais qui l'aime encore, qui y prend, qui y trouve encore du goût, et qui ne veut point y renoncer et le mortifier, fait voir par cela même qu'elle n'est point circoncise avec Jésus, et que par conséquent, Jésus n'est point encore né et ne vit point en elle. Mais c'est une circoncision qui ne se fait point non plus sans douleur, quoiqu'elle se fasse sans main. Car c'est aussi une circoncision, un retranchement, et par conséquent quelque chose de violent et de douloureux. Le corps du péché est si naturel à l'homme, sa chair et ses convoitises lui sont si attachées, que quand on les retranche, quand on les mortifie, il semble qu'on lui arrache une partie de lui-même. Aussi, cette corruption, ces affections charnelles, ne se laissent pas retrancher sans faire des oppositions et sans causer des douleurs et des afflictions dans la chair. Quand il fut renoncé et arraché des habitudes invétérées et qui sont comme tournées en seconde nature, quand il faut combattre et surmonter les penchants qui sont nés avec vous et qu'il faut mortifier des passions favorites et abandonner tant de choses dans lesquelles notre chair trouvait sa joie et son plaisir, sans doute que cela ne se fait pas sans douleur, sans violence et sans combat. C'est pourquoi l'Écriture sainte appelle cette circoncision spirituelle une crucifixion, une mortification dans laquelle la chair et l'homme de péché est comme attaché en croix et appliqué à la torture, de sorte qu'il n'est plus en état de faire ce qu'il voudrait. Il ne peut plus jouir de cette douce et agréable liberté dans laquelle il s'est abandonné sans résistance et sans contradiction à ses volontés et à ses penchants. Oh, sans doute, chères âmes, que le joug de Jésus, qu'un enfant de Dieu commence à charger sur soi dans cette circoncision spirituelle, est quelque chose de bien affligeant et de bien dégoûtant à la chair, et qu'il faut beaucoup de sincérité dans l'œuvre de son salut et une résolution divine pour entreprendre tout de bon de mortifier ainsi la chair et de persévérer constamment dans un continuel renoncement à ses passions et à ses convoitises. Vous l'éprouvez, vous qui êtes un peu dans le combat contre vous-même, vous qui êtes occupé à mettre cette chair rebelle en croix. Vous éprouvez combien de tristes combats elle vous livre, combien de résistance et d'opposition elle y fait, et combien de cuisantes douleurs elle vous cause. Certes, renoncer à soi-même, se crucifier, se mortifier soi-même, c'est une chose qui n'est pas bien facile, mais qui est bien dure à des pauvres âmes délicates, comme nous le sommes. Mais pourtant, quelque dure qu'elle paraisse, et qu'elle soit effectivement à notre chair, c'est pourtant une chose non seulement nécessaire, mais possible à un enfant de Dieu. Car c'est la circoncision de Christ. C'est une circoncision dans laquelle Jésus est l'adoucissement et le baume, dans les plaies de laquelle il est le médecin, et à l'œuvre de laquelle il travaille lui-même. C'est Jésus qui donne les forces, qui inspire la résolution, le désir et la volonté de se laisser circoncire. C'est lui qui rend supportable et souvent douce et agréable toutes les petites douleurs qu'on souffre en la chair pour lui. C'est lui enfin qui rend possible et facile ce qui serait sans doute impossible à la nature laissée à elle-même. Car une âme dans laquelle Jésus commence à vivre puise de cette vie nouvelle des forces pour renoncer au péché et pour surmonter la chair et ses affections déréglées. Parce que cette vie de Jésus lui donne de nouveaux penchants et de nouveaux désirs pour de nouveaux biens. Une âme découvre et voit par cette lumière de vie de nouveaux objets, des objets de gloire, d'amour et de joie spirituelle et céleste, qui, engageant puissamment son cœur, l'entraîne amoureusement de ce côté-là, et lui font par conséquent trouver facile et même doux le renoncement à ses premiers faux biens et à ses vieux engagements qu'elle avait à la chair, au monde et au péché. Ah, quand c'est pour l'amour de Christ qu'on se circoncit, quand c'est par une vue divine qu'on a de sa gloire et du bonheur qu'il y a à le posséder, il n'y a rien qui ne soit possible. Une âme se prive volontiers de toutes les choses les plus précieuses dans lesquelles elle aurait pu trouver quelque joie et quelque gloire selon la chair, afin qu'elle gagne Christ, elle vend volontiers tout ce qu'elle a pour acheter cette perle inestimable. Voyez, chers auditeurs, voilà la circoncision spirituelle dont une âme est circoncise en Jésus, quand ce Sauveur a commencé à naître et à vivre en elle. Certes, c'est une chose infaillible et immanquable. Il ne se peut que Jésus naisse et vive dans une âme sans qu'elle soit faite participante de cette circoncision de Christ. Il ne se peut que la vie de Jésus soit dans un cœur sans qu'il dépouille et qu'il retranche le corps des péchés si contraire à cette vie, et sans qu'il renonce sérieusement à tout ce qui combat et qui veut étouffer cette vie nouvelle. Examinez-vous donc. Vous qui croyez avoir toujours vécu en Christ, qui croyez qu'il habite en vous, examinez si vous êtes participant de cette circoncision de Christ faite sans main par l'Esprit du Dieu vivant dans le cœur. Examinez si vous avez un sincère dégoût pour le corps de péché, c'est-à-dire pour tous les péchés en général, et si vous les regardez comme un infâme prépuce qui doit être retranché et jeté loin de vous. Comment vous plaît le monde et ses maximes? Comment regardez-vous les passions et les convoitises de votre chair? Quel mouvement sentez-vous pour les joies et les plaisirs que votre chair désire et cherche? Tout cela vous est-il ennuyeux et dégoûtant? Est-ce une croix et une chose affligeante de sentir en vous de pareils aiguillons qui veulent vous porter au mal? Le monde avec ses maximes corrompues, vous est-il crucifié? Et vous, êtes-vous crucifié au monde? Regardez-vous votre chair avec toutes ses passions et ses concupiscences comme un de vos ennemis capitaux que vous devez combattre, que vous ne voulez plus écouter et auquel vous voulez sérieusement et constamment vous opposer? Véritablement, si vous ne sentez point encore de pareils mouvements de dégoût et de répugnance pour vous-même et pour le monde, c'est une marque qu'il n'y a point encore de vie nouvelle en vous, que Jésus n'a point encore commencé à vivre dans votre cœur, et qu'ainsi vous êtes encore dans la triste mort de vos péchés. Il ne faut point ici crier sur la difficulté et sur l'impossibilité qu'on croit à une telle circoncision spirituelle et à une telle mortification du corps du péché. Car d'un côté, nous devons écouter la parole de Dieu qui nous avertit que sans doute il y a du travail et de la douleur dans le renoncement à soi-même, mais que cette peine est peu comparable aux peines éternelles qu'on évite en mortifiant et en tuant ce vieil homme et aux gloires immortelles auxquelles on se prépare et auxquelles on tend par ces petites souffrances en la chair. L'Écriture sainte et l'Esprit de Dieu ne nous flattent point, il est vrai, ils ne nous disent point que nous serons exempts de douleurs et de souffrances, mais ils nous assurent aussi que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit être révélée dans ceux qui auront vaincu. D'autre côté, il faut bien se souvenir que cette œuvre, c'est l'œuvre de Christ, c'est la circoncision de Christ. C'est lui qui s'engage à nous soutenir et à nous fournir de force suffisante pour demeurer vainqueurs dans le combat que nous entreprendrons contre nous-mêmes et contre le monde. C'est de sa plénitude et de sa vie céleste et puissante qu'il veut nous faire part pour nous mettre en état de travailler à la destruction du corps du péché et à l'établissement de son empire et de son règne de justice et de sainteté dans nos cœurs. Si donc cette circoncision spirituelle ne s'est fait point en nous, ce n'est que manque de sincérité de notre part. C'est que nous aimons mieux nos ténèbres et les œuvres de ténèbres que la lumière et la vie de Jésus. Mais, deuxièmement, quand se fait cette circoncision? Il est dit de celle de Jésus, « Et quand les 8 jours furent accomplis pour circoncire l'enfant. » C'était une des ordonnances de la circoncision lévitique, qu'elle devait se faire 8 jours après la naissance de l'enfant. Sans doute que, d'un côté, Dieu avait en vue de faire voir qu'il ne fallait pas tarder longtemps à introduire dans l'alliance de Dieu ces petites créatures qui naissaient, mais qu'il fallait, dès les premiers jours de leur vie, les lui apporter et consacrer. D'autre côté, par ce petit délai, Dieu voulait que l'enfant acquît quelques forces pour supporter plus facilement l'opération de la circoncision. Car si d'abord, après les douleurs de la naissance, on avait fait souffrir à un pauvre enfant celle de la circoncision, il n'aurait pu les soutenir, et il en serait fort peu échappé et fort peu demeuré en vie de tous ceux qu'on aurait circoncis. Ceci nous fournit 2 édifiantes réflexions sur la circoncision spirituelle des enfants de Dieu. La première est que nous devons apprendre que la circoncision suit de près la vie nouvelle qu'une âme reçoit en Jésus. Lorsque cette vie nouvelle est une fois produite en elle, elle ne saurait trop tôt renoncer au péché et aux convoitises du monde, ni trop tôt se consacrer à Dieu et s'abandonner entre les bras d'amour et de miséricorde que cette lumière de vie lui découvre ouvert pour elle. Cet enfant que la femme de l'Apocalypse enfanta et qui représente la vie nouvelle ne fut pas plus tôt venu au monde qu'il fut ravi à Dieu et à son trône et ainsi soustrait aux persécutions du dragon, à la corruption du monde et aux séductions du péché pour être là caché et nourri dans le sein de Dieu et de son amour, pour être là élevé, accru et perfectionné dans les qualités divines et dans les dispositions célestes nécessaires à la nouvelle créature et à un élève de la sagesse éternelle. Une âme qui reçoit la vie de Jésus s'engage à son service. Elle ne peut par conséquent pas demeurer au service du diable et du monde, car elle ne peut pas servir 2 maîtres si différents et si opposés. Recevant cette vie nouvelle, elle reconnaît l'Éternel pour son Dieu. Ainsi, elle ne peut pas continuer à adorer le Baal du monde et de ses passions, et elle ne saurait demeurer dans cette indifférence criminelle, à clocher des 2 côtés, et à vouloir servir l'Éternel et Baal tout ensemble. Mais elle se déclare pour le vrai Dieu, et elle crie avec les enfants d'Israël, lorsque le feu céleste est descendu et tombé du ciel dans son cœur. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voyez donc, chères âmes, qui désirez avoir part à la vie de Jésus, à quel danger vous vous exposez en différant votre sincère renoncement au monde et au péché. Vous marchandez. Vous parlementez avec votre chair, vous renvoyez toujours à une autre fois la rupture que vous devez faire avec vos compagnies de débauche et de divertissement charnel. Vous remettez à un temps encore éloigné le renoncement à de tels et de tels engagements, à de certaines passions que vous aimez encore. Mais souvenez-vous que la vie de Jésus ne saurait être en vous sans que la véritable circoncision et la sincère mortification de votre chair ne la suivent aussitôt, et que par ces délais que vous mettez à renoncer à ce que vous sentez, que la lumière céleste vous découvre en vous de criminel et de péché. Vous empêchez la vie de Jésus de se manifester en vous. Vous détenez sa vérité en injustice et sa force sous l'esclavage et sous la captivité des puissances du péché et de la corruption. Une seconde réflexion que cette considération du temps nous fournit, c'est la charitable condescendance que Dieu a pour ses enfants. Comment il les épargne, les supporte et leur donne les moyens et les forces nécessaires pour porter avec plus de facilité ce qu'il y pourrait avoir de dur dans la circoncision spirituelle et dans le dépouillement du péché. Comme les 8 jours qui étaient entre la naissance et la circoncision étaient destinés à ce que l'enfant nouvellement né ne fût plus en état et eût plus de force pour supporter l'opération de la circoncision. De même, Dieu, dans la circoncision spirituelle, à laquelle il appelle ses enfants, use de ménagement et de support à leur égard. Il les traite avec beaucoup de tendresse, comme une mère son enfant faible. Il est vrai qu'il ne délivre point de la nécessité d'être circoncis avec son fils et de renoncer à eux-mêmes, au monde et au péché, et qu'il ne veut en aucune manière épargner et favoriser la chair et son empire. Mais pourtant, dans toutes les obligations qu'elle impose et qui sont absolument nécessaires pour leur délivrance et leur préparation à la gloire, ce Dieu bon et charitable agit avec beaucoup de support et de ménagement. Il fait la chose, il est vrai. Il passe à l'opération. Mais c'est avec beaucoup de douceur, avec une sagesse et une précaution divine. Il circoncit une âme, mais ce n'est qu'après lui avoir donné les forces de souffrir cette circoncision. Il a fait avancer dans le dépouillement du péché, mais ce n'est qu'à mesure qu'il verse en elle de nouvelles forces pour surmonter toutes les difficultés qui s'y pourraient rencontrer. Car il faut savoir que la circoncision spirituelle a différents degrés. Quant à la rémission des péchés et au premier mouvement de haine pour le péché et d'amour pour la sainteté, cela est donné à une âme d'abord, après sa naissance spirituelle. Mais quant au parfaire et à l'exécution de tous les bons désirs qu'elle a conçus dans sa nouvelle naissance, elle y avance à mesure que la grâce croît en elle, et à mesure qu'elle se sert fidèlement des forces que cette grâce lui communique. C'est dans l'exécution de ces saints désirs qui sont comme les progrès de la circoncision spirituelle que le grand Dieu se comporte envers une âme avec beaucoup de support et de patience. Voyez comment Jésus-Christ en agit envers ses disciples. Avec quelle tendresse il les supporte, comment il corrige peu à peu leurs défauts, les retire de leurs erreurs et les fait avancer peu à peu dans sa connaissance et dans son amour. Quand on lui demanda pourquoi il traitait ses disciples avec tant de ménagement, pourquoi les disciples de Jean jeûnaient si souvent et qu'eux ne jeûnaient point, il répondit qu'il n'est pas expédient de coudre une pièce de drap neuf à un vieux vêtement et qu'il ne faut pas mettre le vin nouveau fort et violent, dans des vaisseaux vieux, faisant entendre que ses disciples, qui étaient encore faibles comme un vêtement vieux et comme des vrais seaux usés, n'étaient pas encore en état de supporter les doctrines dures de mortification sévère qui pouvaient bien aussi être pratiquées par les hypocrites, par de mauvais principes. Mais que pour les préparer à la véritable et sincère mortification, il fallait les sanctifier et les vider peu à peu d'eux-mêmes et de leur corruption et les renouveler par la vertu de son esprit. Voyez comment Dieu se comporte envers son peuple d'Israël. Quand il les eut retirés d'Égypte, il ne les mena point d'abord par le chemin où ils auraient rencontré la guerre et les oppositions violentes des Philistins, qui sans doute les auraient dégoûtés et les auraient fait repentir d'être sortis de l'Égypte. Mais il les mena et les conduisit doucement par le désert. Son esprit les mena tout doucement, comme on fait une bête qui descend en une plaine. Ainsi a-t-il conduit son peuple afin de s'acquérir un renom glorieux. Voici sans doute, chers auditeurs, quelque chose de bien consolant pour une pauvre âme qui voit avec douleur qu'elle ne fait pas dans la sainteté les progrès qu'elle devait faire, qui sent encore quantité de misère et d'infirmité, et qui se voit exposée souvent à des chutes qui lui font douter qu'elle ait part à la circoncision spirituelle des enfants de Dieu. Elle sent encore tant de passions différentes qui l'agitent, tant de mauvais penchants qui veulent l'entraîner, et qui souvent l'emportent malgré elle, qu'elle tombe souvent dans de tristes et affligeantes pensées de découragement et de doute qui veulent lui persuader qu'elle n'a encore rien de la nouvelle vie de Jésus parce qu'elle ne voit pas en elle la circoncision spirituelle, le renoncement au péché et la délivrance des passions qui font la guerre à son âme. Elle voit d'ailleurs dans la considération qu'elle fait du chemin du salut quelque chose de si élevé au-dessus de ses forces, des ennemis si infatigables, des difficultés si dégoûtantes à la chair, qu'elle craint de ne venir jamais à bout du dessein qu'elle a formé de tendre à la cité céleste. Mais il faut qu'une telle âme prenne garde à ce support charitable et tendre que Dieu a pour les âmes sincères. Il faut qu'elle sache que celui qui l'appelle à cette circoncision spirituelle est non seulement puissant pour lui donner les forces de vaincre, mais qu'il est aussi bon et plein de compassion pour avoir pitié de ses infirmités et pour se comporter envers elle selon que sa faiblesse le pourra permettre. Elle n'a pas affaire à un tyran qui punisse d'abord rigoureusement les plus petites fautes, mais elle a affaire à un père bon, qui, comme une mère tendre, n'abandonne pas d'abord son enfant pour quelques incommodités qu'elle en a à souffrir, dans les moindres faux pas ou chutes qu'il fait, mais qui l'aide, qui le relève, qui le console et qui lui donne courage. Seulement, il ne faut qu'avoir de la sincérité et agir rondement avec lui. C'est ce que Dieu demande surtout. Du reste, il veut conduire une âme par les faiblesses et par les infirmités au but qu'elle désire, aussi bien qu'il en conduit d'autres par la force, par la victoire et par les joies spirituelles. Oui, chères âmes, si vous souhaitez suivre les attraits de la grâce de votre Dieu et les premiers bons désirs qu'elle vous a donnés, vous éprouverez que Dieu avancera dans vous insensiblement l'œuvre de votre circoncision spirituelle, qui vous donnera des forces pour y croître, et vous expérimenterez que ce qui vous paraissait au commencement impossible et insurmontable vous deviendra facile par les accroissements de lumière, de force et de grâce que Dieu versera en vous pour le dépouillement et le retranchement journalier du corps de péché. Mais ceci ne doit pas endormir les âmes impénitentes à leur sécurité, car leur état est bien différent de celui de ces âmes réveillées et désireuses de leur sanctification. Elles n'ont pas encore fait le premier pas dans la circoncision spirituelle. Elles sont encore sous la captivité du vieil homme. Elles aiment encore le péché. Elles le nourrissent et y prennent plaisir. Ainsi, elles ne peuvent pas espérer que les péchés dans lesquels elles vivent volontairement et contre lesquels elles ne combattent point soient des faiblesses et des infirmités que Dieu supportera en elles. Car voyez et remarquez surtout ceci dans les enfants de Dieu. C'est qu'il n'y a pas de faiblesse si petite en eux qui ne condamne, dont Dieu ne les dégoûte et dont il ne leur donne le désir de se corriger et de se laisser guérir. Ils sont affligés de voir en eux quelque chose de contraire à la volonté de leur Dieu. Ils le haïssent sérieusement et travaillent à s'en délivrer. C'est ce qui n'est pas dans une âme impénitente. Elles ne sont point de haine et de dégoût pour ses péchés. Elles ne désirent point de s'en laisser guérir, elles ne voudraient pas s'en voir délivrer, mais elles aiment à y vivre et à y demeurer. parce que cela est agréable à sa chair et à ses inclinations corrompues. C'est pourquoi elle n'a point de sujet de se flatter du support et de la condescendance de Dieu. Au contraire, elle doit tout craindre de sa colère si elle continue dans l'amour et dans l'attachement qu'elle a pour le péché auquel elle ne veut point renoncer et duquel elle ne veut point se laisser circoncire et délivrer. Voyons aussi, troisièmement, pourquoi cette circoncision se fait. Jésus-Christ voulut être circoncis pour ces deux raisons. 1. Pour rendre à la loi de son Père céleste l'obéissance qui lui devait en qualité de caution pour les hommes. Car en cette qualité, il s'était rendu sujet à la loi comme saint Paul le dit. Quand l'accomplissement des temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, fait de femme et fait sujet à la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, et que nous reçussions l'adoption des enfants. Il voulait donc, dès ses premiers jours, donner un témoignage de sa sujétion à la loi de Dieu et du dessein qu'il avait de l'accomplir. 2. C'était pour donner, dans l'effusion de son premier sang qui fut répandu dans sa circoncision, un prélude et comme les prémices des passions et de la mort dans laquelle il devait verser son sang pour le rachat des hommes, de sorte que la circoncision de Jésus-Christ était déjà comme un préliminaire et un commencement de l'obéissance active et passive qu'il devait rendre à la loi et à la justice de Dieu. Ainsi, un enfant de Dieu reçoit la circoncision spirituelle aussi pour ces deux raisons. 1. Pour donner un témoignage de sa soumission et de son obéissance, et pour faire voir qu'il veut se remettre sous sa dépendance. Le péché est une rébellion contre Dieu, une révolte contre son maître et son souverain. Pendant tout le temps que l'homme demeure sous l'esclavage du péché, il est l'ennemi de Dieu. Il est dans la révolte contre lui. Mais quand il reçoit la nouvelle vie en Jésus, Dieu demande de lui qu'il cesse d'être rebelle, en renonçant au péché et en se laissant dépouiller de ce qui est contraire à l'obéissance qu'il lui doit. L'homme ne peut pas refuser à Dieu cette juste demande. Il ne peut absolument avoir de part à Dieu ni à ses biens qui ne rentrent dans cette obéissance, parce que c'est là une qualité absolument nécessaire à un sujet du royaume de Dieu et à une âme qui, par la vie nouvelle, rentre en communion avec Dieu. Il n'est possible qu'elle ait accès à cette communion qu'elle ne rentre dans une sincère dépendance de Dieu et dans une humble soumission à ses volontés et à ses lois. Elle commence à lui marquer cette obéissance dans la circoncision spirituelle, dans laquelle elle retranche et se laisse dépouiller du corps du péché et embrasse ce qui est agréable à Dieu pour en faire la règle de son cœur, de sa vie et de sa conduite. C'est pour cela que l'homme est converti des ténèbres à la lumière. C'est pour cela qu'il est amené à la foi en Jésus et que la nouvelle vie lui est donnée. C'est afin qu'il devienne de nouveau obéissant et soumis à Dieu, et qu'il y redonne la gloire qui lui avait ravie par son péché. C'est à cette obéissance de foi que les apôtres, les prophètes et tous les serviteurs de Dieu ont dû et doivent encore amener les hommes. Et cette obéissance consiste proprement à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde pour vivre en ce présent siècle selon Dieu, saintement, justement et religieusement. C'est là cette circoncision spirituelle dont nous parlons, dont la foi est la base et le fondement. D'où il paraît combien c'est une prétention injuste et mal fondée de vouloir être enfant de Dieu sans lui obéir, prétendre être son sujet sans lui être soumis. croire être son serviteur sans faire sa volonté. Cela n'est pas compatible. Être enfant de Dieu, être sujet de son royaume, être son serviteur emporte nécessairement une obéissance, une circoncision spirituelle, un renoncement au mal et un attachement sincère au bien. Prétendre être enfant de Dieu autrement, c'est se faire illusion, c'est se laisser tromper par le diable et par l'aveuglement de son propre cœur. C'est pourtant là la prétention de la plupart des hommes. Ils ne veulent point obéir à Dieu, ils ne veulent point faire sa volonté, ils veulent suivre la leur et vivre à leur plaisir, suivant le train du monde et selon ses maximes. Et pourtant, ils veulent avoir part à la vie nouvelle. Ils veulent que Jésus soit pour eux et en eux. Mais un enfant de Dieu ne se laisse point séduire par ses tromperies. Il se laisse circoncire avec Jésus. Il suit son Sauveur dans le renoncement pour marquer son obéissance et sa soumission à Dieu et à ses volontés pour lui en donner des témoignages réels. Car que sert-il de dire qu'on obéit et qu'on veut obéir à Dieu, qu'on le reconnaît pour son maître, et qu'on veut se soumettre à lui, quand on ne lui en donne aucune marque réelle, et qu'au contraire, la vie et la conduite témoignent tout autre chose. N'est-ce pas se moquer de Dieu et se vouloir jouer de lui comme d'un homme mortel? Un enfant de Dieu se laisse circoncire avec son Sauveur pour donner une preuve de la part qu'il prend aux croix et aux souffrances qui accompagnent le christianisme. Car cette circoncision spirituelle, ce renoncement à soi-même, cette mortification de sa chair, est un joug bien pesant et une croix bien dure au vieil homme. Cependant, une âme qui a la vie nouvelle ne cesse pas de la prendre sur soi et de la charger pour témoigner par là qu'elle veut suivre Jésus dans les souffrances et par ses premières douleurs qui se souffrent dans la circoncision spirituelle, se préparer à toutes celles dont Dieu pourrait encore juger à propos de la charger à la suite de Jésus. Car cette circoncision spirituelle étant la croix intérieure, est aussi la véritable préparation aux croix extérieures. C'est le fondement de toute la patience et de la résignation avec laquelle un enfant de Dieu souffre tous les mépris, les opprobres, les injures et les persécutions auxquelles il pourrait être exposé pour le témoignage de Jésus. Quiconque ne se sera point laissé disposer par cette croix intérieure qui est la mortification du vieil homme et de ses affections déréglées d'orgueil, de colère, d'impatience, d'avarice et d'autres choses, ne sera guère en état de souffrir avec patience et résignation quand les croix extérieures viendront l'assaillir. Qu'est-ce qui fait qu'on est si impatient dans les afflictions, qu'on est si tôt porté au murmure et au découragement quand il faut avoir quelque part des mépris, des opprobres et des souffrances de Jésus? Ce n'est autre chose que le défaut de cette circoncision spirituelle. On n'a pas appris à renoncer, à retrancher et à se dépouiller de son orgueil, de sa vanité, de sa délicatesse et de son attachement sensuel à soi-même et aux passions de la chair, qui sont les principes et les sources des impatiences et des mauvaises humeurs qu'on remarque en nous à la moindre occasion qui se présente de souffrir quelque chose. Certes, si nous avions bien appris à renoncer à nous-mêmes et à mortifier nos mauvaises affections, si nous avions appris à ne vouloir rien être dans le monde, à nous regarder dignes de tout mépris et de toutes les injures les plus humiliantes, si nous savions par expérience ce que nous confessons de bouche, que nous avons mérité toutes sortes de punitions temporelles et même aussi la damnation perpétuelle et infernale, nous n'aurions pas tant de peine à supporter les torts les affronts et les injures qu'on nous fait. Nous serions mieux disposés à recevoir avec patience et humilité les différentes épreuves par lesquelles il nous faut passer. Voyez, chers auditeurs, ce qui se passe dans un enfant de Dieu d'abord qu'il est rendu participant de la vie de Jésus. Hélas, combien y en a-t-il qui s'imaginent d'être enfants de Dieu sans rien éprouver de tout cela? Combien qui croient avoir Jésus vivant en eux sans sentir aucune pareille opération de cette vie? Oh, le monde aveugle regarde la vie de Jésus comme une chose morte qui ne doit rien faire dans l'âme et qui doit la laisser tranquillement sur sa lit et sur le fond de corruption dans lequel la chair trouve son plaisir et sa nourriture. Voit-on chez les hommes aucune circoncision spirituelle? Se laissent-ils dépouiller du péché? Renoncent-ils à eux-mêmes, au monde et à ses maximes corrompues? Voit-on qu'ils avancent dans le renouvellement intérieur, dans la mortification de leurs passions, et qu'ils achèvent leur sanctification en la crainte du Seigneur, en se laissant nettoyer de toute souillure de chair et d'esprit? Quel est votre aveuglement, âme trompée et misérable? Vous vivez dans ce monde d'une vie animale et corporelle. Cette vie a dans vous ses opérations. Par elle, vous croissez, vous avancez en stature et en force de corps et d'esprit. Vos lumières de la nature se fortifient. Votre jugement et votre raison se perfectionnent. Vous acquérez de l'expérience dans les choses de la terre. Vous agissez et conversez dans ce monde. Et tout cela parce que vous vivez. Parce que vous avez en vous le principe de la vie naturelle qui anime ces corps que vous portez. Vous voyez tout ce que cette vie naturelle fait en vous. Vous en sentez les productions et les opérations. Et vous croyez que la vie nouvelle de Jésus ne produit rien de semblable dans les âmes? Qu'il n'y a point d'opération convenable et conforme au principe divin d'où elle se tire? Vous croyez qu'elle ne doit point vous faire croître en grâce, en sagesse, en connaissance et en expérience spirituelle? Qu'elle ne doit point vous fortifier et vous accroître les forces nécessaires pour surmonter et vaincre vos passions, pour renoncer au monde, pour mortifier votre chair? Qu'elle ne doit point vous élever et vous porter avec plaisir à la recherche sincère des choses éternelles? Vous demeurez toujours mort, froid et indifférent pour toutes les choses divines. Vous ne sentez d'ardeur, de vivacité et d'amour que pour les choses de la terre. Vous vivez dans un continuel abandon à vos penchants, sans combat, sans résistance et sans mortification. Et puis vous dites que vous avez la vie de Jésus en vous. Vous dites que vous vivez, que vous croyez en lui. Certes, on ose bien vous dire que vous mentez et que la vérité n'est pas en vous. Où sont donc en vous les productions de cette vie céleste et divine? Montrez que vous vivez. Faites-le sentir par des actions et des opérations conformes aux principes de cette vie nouvelle. Donnez à Dieu et aux hommes quelques témoignages réels de la vie de Jésus, si elle est en vous. Mais c'est inutilement que nous vous parlons. Vous voulez demeurer dans votre mort. Vous voulez vous contenter d'avoir le bruit et le nom de vivre. Vous tâchez de vous persuader que vous vivez, quoique vous soyez mort, et quoique vous n'ayez aucune production qui témoigne de votre vie nouvelle, et que vous n'en possédiez point la force et la réalité. Vous voulez attendre que Jésus, qui tient les sept esprits de Dieu en sa main, et qui connaît vos œuvres, qui ne sont que charnelles et mondaines, vienne vous convaincre, comme ceux de l'église de Sardes, que vous n'avez qu'un vain bruit et un fantôme de vie, mais que dans le fond vous êtes dans un triste vide de toute réalité. Mais vous, chères âmes, qui expérimentez quelque chose de la force de cette vie de Jésus, nourrissez-la, excitez-la de plus en plus en vous, par vos prières, par votre attachement sincère à Dieu, et à la source d'où vous la tenez, suivez ces mouvements. et laissez-lui son cours en vous. N'étouffez point ses productions et ses opérations qui tendent toujours à vous dépouiller de plus en plus de vous-même, à vous purifier et sanctifier de plus en plus pour vous préparer par une circoncision journalière à la parfaite vie de Jésus qui doit être révélée en vous dans la gloire. Vous aurez en cela un témoignage convaincant que vous avez part à la vie nouvelle, que vous êtes une ombre des enfants de Dieu et du rang des sujets du royaume de Dieu, parce que vous vous soumettez à lui. Vous obéissez à ses ordres et à ses volontés. Cela vous servira aussi de témoignage devant les hommes, car ils verront par là que vous êtes conduits d'un autre esprit que le monde, que vous vivez d'une autre vie et que vous cherchez d'autres biens et qu'ainsi vous aurez un jour un autre sort que lui. Par là, vous assurerez de plus en plus votre vocation et votre espérance glorieuse de la conformité que vous aurez un jour avec Jésus en gloire, après que vous aurez été rendu conforme à lui ici-bas, en renoncement, en souffrance et en croix. Parce que si nous sommes cachés ici-bas, avec lui, sous la croix, en Dieu, nous serons un jour aussi manifestés avec lui en gloire quand il apparaîtra. Une seconde chose qui se passe dans une âme qui a la vie de Jésus, c'est qu'elle reçoit avec lui un nouveau nom. C'est ce que nous devons maintenant un peu voir dans cette seconde partie de notre méditation. Dans la circoncision, le Seigneur Jésus reçut ce doux et glorieux nom de Jésus, comme dit le texte. Son nom fut appelé Jésus. C'est un nom que le Fils de Dieu a reçu proprement par son incarnation, car par sa divinité éternelle, il était bien, comme il sera toujours, le Dieu béni éternellement sur toute chose. Il était l'Éternel, le Dieu fort, le Tout-Puissant, etc. Et possédait tous les glorieux titres et tous les augustes noms qui conviennent à la divinité. Mais il n'avait point le nom de Jésus, ni de Sauveur. C'est le dessein qu'il a pris de racheter les hommes et l'exécution qu'il a donnée à ce dessein par son incarnation qui lui a procuré ce nom. Si le Fils de Dieu n'avait jamais résolu de sauver les hommes, s'il n'avait promis dans l'alliance qu'il a traité avec son Père, dans le conseil éternel de la divinité, de venir délivrer les hommes de leur funeste chute, il n'aurait jamais été appelé Jésus. Et s'il est appelé quelquefois Sauveur ou le Rédempteur d'Israël sous l'Ancienne Alliance avant son incarnation, ce n'est que dans la vue de l'exécution infaillible qu'il ferait par son incarnation du décret de la rédemption des hommes, de sorte qu'on peut dire que ce nom de Jésus est un nouveau nom que le Fils de Dieu a reçu et qui lui a été donné dans sa circoncision comme il le dit lui-même. Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et mon nouveau nom. Mais ce nom n'est pas une chose vide, car il ne l'a reçu que parce qu'il possède, il en possède la réalité. Il sera appelé Jésus, dit l'ange, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Tous les noms de Dieu ne sont pas comme ceux des hommes, qui souvent n'ont que les lettres qui les composent. Mais les noms de Dieu portent avec eux la chose même qu'ils expriment. Et Dieu ne se donne des noms que parce qu'il est tel en effet, et plus réellement tel que le nom ne peut l'exprimer. Car tout ce qui est en Dieu et ce qui vient de Dieu est plein de réalité et de vérité. Ainsi, Jésus n'est appelé de ce nom que parce qu'il devait être et qu'il était véritablement le Sauveur et le Rédempteur du genre humain, et qu'il possédait toutes les qualités et toutes les forces nécessaires pour cette grande charge et pour l'œuvre incomparable qu'il entreprenait. Ce Fils éternel de Dieu, en qualité de rédempteur et de sauveur, a une relation nécessaire et comme naturelle avec ceux qu'il rachète. Ainsi, si en qualité de rédempteur, il a reçu un nom qu'il n'avait point encore auparavant, il faut que ceux qui sont faits participants de sa rédemption reçoivent aussi un nouveau nom qu'ils n'avaient point encore avant qu'ils fussent entrés dans les privilèges de cette rédemption. C'est ce qui se fait dans ceux qui naissent de nouveau avec Jésus et qui sont circoncis avec lui. Dans cette nouvelle naissance et dans cette circoncision spirituelle, ils reçoivent un nouveau nom. Mais quel est-il, ce nouveau nom ? Comme celui que le Fils de Dieu reçut par son incarnation est le nom de Jésus, de Sauveur ou de Rédempteur, ainsi le nouveau nom que ses enfants reçoivent dans leur naissance nouvelle, c'est celui de Racheté et Sauvé. Avant que les pauvres âmes entrent dans une union réelle avec Jésus et qu'elles soient véritablement participantes de la réalité que son nom emporte avec soi, leur nom est celui d'esclave du diable, de captif du péché, d'enfant de colère et de damnation. Voilà leur vieux nom, le nom qu'elles ont de leur nature et avec lequel elles naissent. Ce sont les noms que la parole de Dieu leur donne, et que Dieu, qui connaît parfaitement leur état, leur attribue. Jésus-Christ disait à ces Juifs rebelles qui ne voulaient point le reconnaître pour le Messie, mais qui le persécutaient, « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. » Saint Paul nomme ceux qui vivent selon le train de ce monde des enfants de rébellion, et un peu plus bas, des enfants de colère. Enfin, l'ancien nom de l'homme avant sa conversion est un assemblage de toutes les misères temporelles, spirituelles et éternelles. Qui pourrait exprimer l'horreur renfermée dans le nom de pécheur, de transgresseur dès le ventre, d'ennemi de Dieu ? Mais quand cette âme qui a des noms si odieux et qui est plus réellement misérable que les noms ne le peuvent exprimer, vient à entrer dans une heureuse union avec Jésus, qui vient à être le correlatum de ce glorieux relatum, c'est-à-dire qui vient à être unie à Jésus par la foi pour avoir part à lui et à sa rédemption, alors elle reçoit un nouveau nom. Jésus devient son sauveur, et elle est rachetée. Jésus devient son roi, et elle sa sujette. Jésus son maître, elle sa servante et sa disciple. Dieu devient son père et elle son enfant. Ce sont là les heureux nouveaux noms qu'une âme reçoit avec son sauveur dans sa naissance spirituelle, selon les promesses excellentes qui en sont faites. À celui qui vaincra, dit Jésus, je lui donnerai un caillou blanc, et dans ce caillou blanc, un nouveau nom que personne ne connaît que celui qui le reçoit. C'est ce que Dieu avait aussi déjà promis sous l'ancienne alliance, à ceux qui se convertiraient à lui. Au lieu, dit-il, qu'ils ont été appelés Lo-Ami, c'est-à-dire « Vous n'êtes point mon peuple », il leur sera dit, vous êtes les enfants du Dieu fort et vivant. Et au lieu qu'on les appelait Lo-Ruhama, c'est-à-dire point de miséricorde, ils deviendront ceux envers qui j'userai de miséricorde. Ce que l'apôtre Saint-Pierre applique aux enfants de la Nouvelle Alliance, qui sont appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu, quand il leur dit, vous qui autrefois n'étiez point peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Qui autrefois n'aviez point obtenu miséricorde, avez maintenant obtenu miséricorde. Voyez, disait saint Jean à ses petits-enfants spirituels, quelle charité nous a donné le Père que nous soyons nommés enfants de Dieu. Ah, l'heureux et glorieux nom d'enfant de Dieu, et ce nouveau nom qu'une âme reçoit dans sa naissance nouvelle. Et avec le caillou blanc qui lui est donné, qui n'est autre chose que la justice solide, éternelle, constante, pure et parfaite de Jésus-Christ, qui en même temps qu'elle est conférée à une âme dans sa régénération, lui donne droit d'être fait enfant de Dieu, selon ce que dit saint Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à savoir Jésus et sa justice, il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu, à savoir à tous ceux qui croient en son nom. Il faut encore remarquer deux choses sur ce nouveau nom. La première, que le droit et le pouvoir d'imposer de nouveaux noms n'appartenaient qu'à des supérieurs et à des pères de famille. C'était une marque de supériorité. Quand les anciens recevaient quelques étrangers dans leur famille et au nombre de leurs domestiques, ordinairement, ils lui changeaient son nom. Pharaon changea le nom de Joseph. Le maître d'hôtel de Nebuchadnezzar changea les noms de Daniel et de ses compagnons. Le roi de Babylone et d'Égypte ont souvent changé les noms des rois de Juda quand il les assujettissait à leur domination. Quand Dieu traita alliance avec Abraham, il lui changea son nom d'Abraham en Abraham. Jésus-Christ donna aussi des nouveaux noms à Simon, au fils de Zébédée, et à plusieurs autres de ses disciples, lorsqu'il les reçut dans son école et sous sa discipline. Ce changement de nom marquait un droit de supériorité et de maîtrise, ou signifiait quelque chose de particulier et d'extraordinaire. Quand donc Dieu veut recevoir une âme au nombre de ses domestiques, il la veut faire un membre de sa famille céleste, il est juste qu'il lui change son nom, qu'il y ôte le nom odieux qu'elle portait sous l'empire du diable et dans le temps qu'elle était de la malheureuse société des sujets de ce tyran. Il est juste qu'il efface ce nom et qu'il n'en soit plus fait mention à jamais. Selon la promesse de Dieu, j'ôterai hors de sa bouche les noms babalins, et on n'en fera plus mention par leur nom. Afin que, s'il est possible, ce nom, avec tout ce qu'il avait de réalité et d'effet en elle, soit entièrement aboli. En abolissant et en effaçant ce vieux nom, il faut que Dieu, qui devient son roi et son maître, lui en donne à nouveau qu'il la fasse souvenir qu'elle est maintenant sous la dépendance de Dieu, qu'elle est un domestique de Dieu, un sujet de son royaume et un membre de sa famille, et que par ce nouveau nom, elle soit sans cesse avertie de son devoir envers ce nouveau maître et seigneur, des nouveaux engagements dans lesquels elle est entrée et de l'état d'enfant de Dieu dans lequel elle est maintenant, afin qu'elle vive dignement selon la vocation glorieuse à laquelle elle est appelée. C'est ce que saint Paul remettait en mémoire à ses Éphésiens convertis quand il leur dit « Souvenez-vous que vous étiez autrefois gentils en la chair. Vous étiez en ce temps-là hors de Christ. Vous étiez étrangers des alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et étant sans Dieu au monde. » Voilà l'ancien nom que les Éphésiens avaient avant leur conversion et le misérable état dans lequel ils étaient. Voici le nouveau nom qui suit. « Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes approchés par le sang de Christ. Vous n'êtes plus étrangers ni de dehors, mais vous êtes combourgeois des saints et domestiques de Dieu. » Mais pourquoi tout cela? Et à quoi cela les engage-t-il? Il le dit quand il ajoute « Afin qu'étant édifié sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse, pierre du coin, vous soyez un tabernacle de Dieu en esprit. » C'est donc selon ce nouveau nom qu'une âme devient le tabernacle et le domicile de Dieu, et selon lequel elle est inscrite dans la matricule de la bourgeoisie céleste et dans le livre de vie, ce qui doit sans doute l'engager puissamment à avoir sa conversation dans les cieux, à se conduire comme un membre de la famille sainte et divine du Père céleste, dont Jésus-Christ est le frère aîné, auquel tous ceux de cette famille doivent être rendus conformes dans cette vie par la conformité de sa sainteté et de ses souffrances, et dans l'autre, par la conformité de sa gloire. Une seconde chose qu'il faut remarquer dans ce nouveau nom, c'est que ce n'est pas un nom sans réalité. Une âme qui a part avec Jésus à la nouvelle naissance n'est pas seulement appelée une rachetée de l'Éternel, une affranchie, un enfant de Dieu, mais elle l'est aussi en effet, parce que ce n'est pas elle qui se donne ses noms en s'imaginant ou en se flattant sans fondement d'être telle que ses noms la signifient. Mais c'est Dieu qui lui donne ses nouveaux noms. C'est au jugement de Dieu qu'elle est telle. C'est lui qui la déclare telle et qui scelle ses nouveaux noms dans son cœur par son esprit, en lui en faisant goûter la réalité, en la revêtant des qualités nécessaires pour porter légitimement ses noms. Car si Dieu lui dit et lui jure qu'elle sera appelée d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel aura expressément déclaré, ce n'est qu'après avoir dit que la justice d'une telle âme ressortira comme une splendeur et que sa délivrance sera allumée comme une lampe qui jettera sa lumière et qui témoignera de ce qu'elle est. Ce n'est qu'après avoir assuré qu'elle sera une couronne d'ornement en la main de l'Éternel et une tiare royale en la paume de son Dieu. S'il dit que ses élus seront appelés un peuple saint et les rachetés de l'Éternel, ce n'est que parce qu'ils auront reçu et embrassé le Sauveur et le Rédempteur qui vient à eux et qui leur est présenté du salaire et du loyer duquel ils seront enrichis de toute grâce et de tout don spirituel. Ainsi, les noms que Dieu donne aux âmes qui se convertissent à lui ne sont jamais sans réalité. Cela n'a pas besoin de beaucoup de preuves. Dieu est un Dieu trop réel et trop véritable pour donner des noms qui n'auraient que l'éclat, sans effet et sans force. Si Dieu donne le droit d'être fait et d'être nommé enfant de Dieu, c'est marque qu'on a reçu Jésus comme sa vie et sa lumière, qu'on croit en son nom, comme en son Sauveur et en son Rédempteur. C'est bien marque qu'on n'est pas né seulement de la chair et du sang et de la volonté de l'homme, mais qu'on est véritablement né de Dieu. Apprenez d'ici, chers auditeurs, à estimer l'excellence incomparable d'une âme qui a part à la vie nouvelle de Jésus et d'envier cet honneur auquel elle est admise, de recevoir de Dieu le Père céleste un nouveau nom qui lui est gravé dans le cœur, sur le front et sur les mains. Les adorateurs de la bête ont sa marque en leurs mains ou en leur front. Mais ces heureux rachetés de l'Éternel, qui adorent le vrai Dieu en esprit et en vérité, ont aussi une marque et une livrée de leur engagement au service de Jésus leur roi. C'est le nouveau nom qu'ils reçoivent, dont ils expriment l'efficacité et la réalité dans toute leur vie et dans toute leur conversation. Mais cette gloire et cette excellence n'est point connue des yeux de la chair et du monde. C'est un nom que personne ne connaît, que celui qui le reçoit. Ainsi, si vous voulez savoir ce que c'est, si vous en voulez connaître la dignité et la grandeur, il faut que vous le receviez aussi. Il faut que vous en fassiez l'heureuse expérience et que vous demandiez au Père de notre Seigneur Jésus-Christ de vous arracher du nombre malheureux des enfants de ce siècle et de vous prendre dans le nombre et vous recevoir au rang de ses enfants et de ses domestiques et de vous sceller cette grâce incomparable avec le sceau du Dieu vivant qui est son esprit. Qui fasse une empreinte et une marque en vous, qui vous fasse reconnaître pour être ses élus. Certes, l'homme charnel ne saurait jamais avoir aucune estime pour cette gloire cachée des enfants de Dieu. Au contraire, il n'a que du mépris pour eux, parce que ce qu'ils font et ce qu'ils sont ne s'accordent point avec les maximes corrompues du monde que la chair aime. Ah ! Laissez-vous convaincre, laissez-vous dire que pouvoir avec vérité se réclamer du nom de l'Éternel et pouvoir se surnommer du nom d'Israël est une gloire plus digne d'une âme immortelle que toutes les gloires les plus relevées de la terre et qu'être le racheté de Jésus, l'enfant de Dieu, l'héritier de ses biens célestes et éternels, et plus que tous les privilèges éclatants et pompeux de la grandeur mondaine. Laissez-vous convaincre de cette vérité divine par le Saint-Esprit, afin que vous cherchiez d'éprouver aussi ce que c'est. Car si vous le saviez, vous n'auriez point de repos jusqu'à ce que vous vissiez en vous ce précieux nouveau nom et que vous diriez sans cesse à Dieu « Ah ! Grand Dieu, écris aussi dans mon cœur, de la touche de ton Saint-Esprit, ce nom glorieux dont tu favorises tes enfants. Fais m'en sentir et goûter la douce et puissante réalité, afin que je la puisse exprimer dans ma vie et dans ma conduite, à ta gloire. Mais si vous dites que vous l'avez, permettez-moi de vous dire encore, de faire un sérieux examen s'il est bien vrai que vous l'ayez. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas l'homme qui se donne et qui peut se donner ce nom. C'est Dieu qui le lui donne. Il ne vous servira de rien de vous le donner et de vous imaginer que vous êtes enfant de Dieu et les rachetés de Jésus. Il faut que ce soit Dieu qui scelle cela dans votre cœur par son esprit. Il faut que lui-même écrive ce nom nouveau en vous, qu'il le grave de son sceau sur votre front. Si Dieu ne vous le donne ainsi, vous aurez beau tâcher de vous persuader que vous l'avez, les hommes auront beau vous tenir pour tel, et vos pasteurs auront beau vous nommer pour fidèle et bien-aimé enfant de Dieu, vous ne le serez pas pour tout cela. Toutes les créatures ensemble ne saurait vous donner une chose qui ne dépend que de Dieu et de sa pure libéralité. Mais si Dieu vous la donne, alors ce sera une puissante réalité qui se répandra et qui aura une influence merveilleuse dans toute votre conversation. Si vous l'avez une fois, il sera vrai de vous ce que Dieu dit de ses rachetés par le prophète Ésaïe. Leur race sera connue entre les nations et ils seront connus parmi les peuples. Tous ceux qui les verront connaîtront qu'ils sont la race que l'Éternel aura bénie. Votre sainte conversation, votre renoncement au monde et au péché, votre attachement amoureux à Dieu et aux choses éternelles vous fera reconnaître pour membre de la génération élue, de la sacrificature royale, de la nation sainte et du peuple acquis qui est appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu afin d'annoncer les vertus et les gloires de celui qui les a rachetés. Avez-vous, chères âmes, quelque chose de pareil? Se remarque-t-il quelque chose de tel en vous? Voyez, C'est cela qu'il faut examiner. Il faut voir si vous produisez ainsi des témoignages convaincants de ce nouveau nom que Dieu donne à ses enfants. Si cela est ainsi en vous, vous êtes heureux. Vous avez sujet de triompher et de vous réjouir d'une joie inénarrable dans la considération de la gloire et du privilège dont Dieu vous honore. Mais si vous ne l'avez point, vous êtes misérable. Vous êtes hors de Dieu et de Christ. Vous êtes encore dans votre vieil état de péché, sous la colère de Dieu, quelque bonne opinion que vous et les autres puissent avoir de votre état et de la part que vous avez en Jésus. Ah, chères âmes, se tromper pourtant dans une pareille chose, c'est un malheur bien digne de larmes. Tâchez d'être assurés de votre fait. La chose n'est pas difficile. Dieu nous donne tous les moyens de nous connaître et de nous voir tels que nous sommes. Les caractères de ses enfants qu'il nous met devant les yeux sont assez capables de nous découvrir à nous-mêmes notre état, si nous voulons nous en faire une sincère application, et si nous voulons examiner si nous le possédons. Il me semble qu'il n'y a rien de si grand, de si glorieux et de si puissant que ce nouveau nom des enfants de Dieu, et que s'il n'est pas toujours connu du monde, qui ne le reçoit point, au moins il doit être connu et senti de celui qui le reçoit, et à qui Jésus l'applique par son Saint-Esprit, de sorte qu'une âme qui ne le voit point en soi, avec ses qualités, ses propriétés et la divine réalité qu'il répand et dedans et dehors, doit à bon droit s'affliger. Elle a sujet de s'humilier devant Dieu et de lui demander de tout son cœur la grâce de pouvoir avoir et de le connaître. Que restera-t-il maintenant, chers auditeurs, qu'à vous souhaiter au commencement de cette année ces heureux privilèges d'enfants de Dieu et ces glorieuses productions de la vie de Jésus que nous venons de vous mettre devant les yeux dans cette prédication? Plût à Dieu que mes souhaits fussent suivis de l'effet et de la réalité. Pour tout bien que je vous souhaiterais, je ne demanderai à Dieu que de vous faire participant de la circoncision spirituelle de son Fils et de vous donner le nouveau nom qu'il donne à ceux qui le connaissent. Le grand Dieu en la main duquel sont vos cœurs veuille les incliner et les porter à se laisser circoncire. Oh, si les cours de nos princes et de nos rois, si les sièges de nos magistrats, si les chairs de nos pasteurs, si nos temples et nos autels, si nos sociétés et nos familles, si nos cœurs enfin étaient circoncis à l'Éternel, s'ils étaient dépouillés du corps du péché et délivrés des abus et des corruptions qui les souillent, combien verrions-nous de grâce et de bénédiction de Dieu couler sur nous? Combien verrions-nous d'heureux effets de la vie et de la force de Jésus au milieu de nous? C'est ce que je souhaite de tout mon cœur à tous, tant grands que petits, tant riches que pauvres, tant élevés que bas, que tous ensemble nous entendions et écoutions à une fois cette voix de notre Dieu qui nous crie, « Vous, hommes de Juda, et vous, habitants de Jérusalem, soyez circoncis à l'Éternel et ôtez les prépuces de vos cœurs, défrichez-vous les novales et ne semez plus sur les épines. » Alors nous recouvrerions cet heureux nom de peuple de Dieu dont nous nous rendons indignes par tant d'ingratitude, et nous porterions légitimement ces nouveaux noms et ces glorieux titres de rachetés de l'Éternel et d'enfants de Dieu, accompagnés de tous les glorieux privilèges que le bon Dieu y a attachés. Dieu veuille regarder en ses compassions éternelles sa désolée Église, qu'on peut bien appeler la délaissée et la désolation même. Dieu veuille que ce nom soit bientôt changé en un nouveau nom, que la bouche de l'Éternel aura déclaré, qu'elle soit bientôt rappelée mon bon plaisir et la mariée, l'épouse de Jésus, en laquelle il prenne son plaisir. et de laquelle il soit le mari et l'époux. Dieu veut particulièrement avoir un œil de pitié ouvert sur ce cher troupeau et sur tous les membres qui le composent, qu'il veuille toucher leur cœur du doigt de son esprit pour les faire devenir des véritables rachetés de l'Éternel, qu'il écrive dans leur cœur le nom sacré de Jésus et leur en fasse goûter la force et la réalité, afin qu'ils soient véritablement le peuple de l'Éternel et l'héritage auquel ils prennent son plaisir et sur lequel il est les yeux ouverts pendant toute l'année pour verser sur lui ses bénédictions spirituelles et temporelles et détourner de dessus lui les malheurs et les fléaux qu'il a déjà éprouvés ci-devant et dont il pourrait encore être menacé pour l'avenir. Ah, grand Dieu, puissant gouverneur de l'univers, qui est toujours le même, qui est l'Éternel, et dont les ans ne seront jamais achevés, regarde-nous, tes pauvres créatures, qui ne sommes que des passants et des voyageurs sur cette terre. Regarde comment nous en sommes, et notre temps nous entraîne vers l'éternité. Nous allons bientôt être avides dessus cette terre pour nous en aller à cette éternité d'où il n'y aura plus de retour. Ô Dieu, fais-nous penser pourquoi nous sommes ici-bas et ce que nous avons à faire pendant le petit séjour que nous faisons dans ce monde, afin que nous travaillions surtout à être participants de la vie nouvelle qui doit nous préparer à la vie éternelle. Que nous nous laissions circoncire tous les jours par la main sanctifiante de ton esprit. Que nous nous laissions charpenter et tailler comme des pierres vivantes pour être préparés au bâtiment de ta sainte cité et de ton temple céleste. Ah, ne permets point, grand Dieu, que nous passions notre vie et le temps que tu nous donnes dans la sécurité et dans l'oubli des choses à venir, que nous ne nous attachions point aux choses d'ici-bas, que nous n'y mettions point nos cœurs et notre amour, mais que nous nous amassions un trésor au ciel que nous trouverons un jour quand nous viendrons devant ta face. Enfin, Seigneur, qui est notre Créateur et notre puissant Rédempteur, qui nous a jusqu'ici comblés de tant de grâces, et qui nous a paternellement conservés, ajoute à toutes ces tiennes grâces celle de nous faire véritablement de tes enfants, de nous donner ton nouveau nom, de le graver dans nos cœurs et de l'écrire sur nos fronts afin que nous soyons reconnus pour tes domestiques et que notre habitation soit un jour dans ta maison pour toute l'éternité. Amen.